Les causeries du Lissignol 8. Discussion et débat autour d'un repas. Les idées, la dialectique et le ventre plein. Bienvenue à toutes et tous. Tiens-toi informé par les réseaux sociaux. Les rencontres du Lissignol 8, groupe poreux d'organisation. Rejoins-y ou écoute-en les podcasts sur Libre Radio, www.libradio.org.
Alors voilà, donc moi il y a quelques années déjà, je fais des livres sous cette enseigne l'analphabet. Il y a un petit âne ici. Parfois les gens ils lisent pas l'image. C'est pas les éditions de l'alphabet, c'est les éditions de l'analphabet. Et je fais des livres parce que ça me plaît, parce que c'est mon métier de typographe, de composition de texte. Et puis que depuis, j'ai créé un petit atelier dans une campagne perdue entre Genève et Lyon, pour la faire courte. Et cet atelier, donc on peut fabriquer artisanalement des livres. Ce que je fais souvent. Mais ce livre-là, l'impression et la fabrication, elle a été confiée à une imprimerie plus grosse parce qu'il y avait trop de pages et trop d'exemplaires à faire pour mes capacités ou même nos capacités, puisque mon fils vient m'aider parfois à faire des livres. Et donc je fais des livres de toutes sortes. Ce n'est pas un atelier militant. Je fais des livres avec toutes sortes de gens qui sont des poètes, photographes, artistes, gens qui ne font pas des livres. Disons quand même ça. C'est-à-dire qu'en général, je publie des inconnus. C'est ce que je préfère. Enfin, des gens qui connaissent pas bien les choses, qui n'ont jamais écrit, qui ont écrit pour la première fois dans leur vie. J'ai publié aussi beaucoup de récits autobiographiques, parce que j'ai une... J'ai une passion particulière pour les gens qui racontent, et qui racontent leur vie aussi, ou les histoires de leur vie, disons. Pas trop, mais un peu. Voilà. Et donc, voilà, Freddy Perlman, maintenant, pourquoi ? Freddy Perlman, c'est donc un auteur qu'on a croisé il y a des années avec Daniel, parce qu'il avait écrit un petit essai qui s'appelait « L'appel constant du nationalisme », qui avait été traduit en français. Et en 1986, dans une édition qui n'a fait que cette brochure, on a publié « L'appel constant du nationalisme » à un petit nombre d'exemplaires, je ne me rappelle plus combien. Et puis depuis, on a perdu un peu de vue, cet auteur. Et voilà. Et puis, ce livre-là, il a été publié en... Alors, contrairement à ce qui est écrit dans la présentation de la soirée, ce n'est pas la première... Ce n'est pas une nouvelle traduction. Ce n'est pas la première traduction en français. Il existait déjà une traduction en français qui a été éditée par des Canadiens à l'enseigne de MyCan,
qui eux-mêmes reprenaient la traduction d'une revue.
Et qui eux-mêmes ont repris la traduction d'une revue vraiment militante, elle, traduction qui était parue sous forme...
C'est une revue bordéguiste.
Oui, bordéguiste, tapée à la machine à écrire, pratiquement traitement technique, enfin je ne sais pas, très presque confidentielle en France. Eux l'ont repris et il a eu un certain succès parce qu'il a été diffusé pour ce qui est de la France, peut-être ensuite, par les éditions de l'Insomniac, si toutefois ça vous dit quelque chose. Et donc ce livre édité par MyCan, rediffusé par l'Insomniac, était épuisé. Quelques exemplaires d'occasion traînent encore à gauche à droite, à 40 ou 50 euros pièce. Et donc on a dit, pourquoi pas se lancer dans cette aventure.
Ça a été un peu le point de départ de cette histoire, c'est qu'on ne trouvait pas pour l'offrir aux gens, où on se disait, mais en fait on a envie de donner ça à nos amis pour qu'ils puissent le lire, et c'était plus possible. Et donc est venue un peu cette idée avec Daniel, avec Pierre, de rééditer, rééditer ce bouquin, quoi.
Voilà. Alors, pourquoi celui-là et pas un... Enfin, voilà. Donc, et puis, en fait, aussi, dans ma vie, comme ça, il y a eu une petite interruption de publication de critique sociale ou de cet intérêt pour ces choses. Mais là, du coup, on a créé une petite collection qu'on a appelée Furax. Et on espère qu'il y aura d'autres textes à cette enseigne pour, voilà, pour juste... que la part de rage qui nous habite, elle continue à s'exprimer d'une façon ou d'une autre, et puis qu'on puisse réfléchir ou pas à certaines façons de faire. Et, voilà. Et puis ce livre-là en particulier, donc maintenant pour en parler plus sur son contenu, je ne sais pas si certains l'ont lu ou pas, mais si personne ne l'a lu, je peux juste présenter un peu. C'est une longue histoire. C'est un type qui se penche sur la longue histoire et les origines, depuis les origines, de la structure de domination et de l'institution de la domination dans l'histoire, et comment, à chacune des étapes diverses de l'histoire, des gens, des peuples vont y résister, y succomber. Enfin, voilà. Et ce qu'il appelle le Léviathan, donc c'est ce monstre que Hobbes avait donné comme ça. Enfin, c'est un monstre, c'est une bête. Il la voit comme vraiment vivante à travers l'histoire, puisque, alors même que parfois on a l'impression qu'elle peut crever ou disparaître, elle renaît de ses cendres ailleurs, sous une autre forme, etc. Et je dirais que la...
Je peux juste, vas-y. Je vais juste dire un truc sur l'auteur. La particularité un peu de ce bouquin, aussi, je pense, c'est une des choses qui, enfin, pour moi, je vais parler pour moi. Moi, c'est un des trucs qui m'a séduit. C'est Freddy Perlman. C'est un universitaire à la base, anarchiste d'origine tchécoslovaque, qui émigre aux États-Unis. Et du coup, il a ce background-là universitaire et tout ça. Mais à la lecture de ce livre, c'est pas ça qu'on trouve du tout. C'est pas un essai universitaire du tout. C'est un essai qui est politique et qui se présente sous la forme plus d'un conte que d'un récit politique classique, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est un truc qui peut interloquer, qui peut déplaire aussi. Mais moi, étant donné une espèce d'aversion que j'ai pour les textes un peu universitaires, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, de réussir à reprendre ce truc-là de l'histoire. Et c'est une réflexion qu'on se faisait, c'est que ce bouquin, il n'est pas seulement... Donc il faut, je vais reprendre juste le titre du livre, donc c'est « Contre le Léviathan, contre son histoire », qui en fait en anglais comporte un jeu de mots qu'on n'a pas pu traduire, c'est-à-dire c'est « Against Léviathan, against his story », ça veut dire « son histoire », mais je ne sais pas comment dire,
masculin.
C'est en un seul mot du coup, avec un tiret de liaison. Et du coup, il y a aussi dans ce livre, de la part de l'auteur, je pense, une manière de remettre en question une façon universitaire de faire de l'histoire et de la considérer, etc.
Et donc patriarcal. Ça, c'est
patriarcal, ouais, carrément, aussi. Et du coup, ce truc-là, pour moi, il est très intéressant, parce que c'est pas juste qu'il va le décrire avec les codes du Léviathan, justement, comme il le nomme, c'est qu'il va essayer d'en sortir. Il va raconter cette histoire en s'adressant non pas à la machine, mais en s'adressant aux gens qui la combattent directement, et en employant une langue qui est abordable, en fait. Une langue qui n'a pas besoin d'avoir fait des années d'études pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir t'y retrouver et tout ça. Et ce truc-là, il est quand même très particulier, très très particulier. Et je trouve un peu propre à ce bouquin. Donc, si on cherche un essai historique... pointilleux, précis, avec des notes de bas de page et tout ça, il ne faut pas aller vers ce bouquin, même si on y apprend une foule de choses. On va être déçu par sa forme. Par contre, si on cherche quelque chose qui nous touche à un autre endroit, je trouve qu'il a vraiment une pertinence très particulière et qu'on retrouve, à mon sens, que très peu. On s'est un peu interrogé sur quels sont les autres auteurs qui ont eu cette manière-là de parcourir l'histoire. Je ne sais plus ce qu'on avait dit.
C'est-à-dire, oui, voilà, comme lui, il se penche là-dessus, et comme ça, et qu'il ne veut pas revenir vers ces traditions d'université ou d'histoire universitaire. C'est comme s'il héritait des traditions orales, des peuples dont il parle et qui ont été dévorés par le Léviathan, parce que le dernier tiers du livre considère la colonisation du continent américain. Et c'est comme s'il reprenait cette tradition orale et il raconte comme pourrait raconter quelqu'un dans une tribu. Comme si la mémoire des ancêtres et ces mémoires qui sont passées de génération en génération. Voilà, c'est ça le fil particulier. Lui, il le remonte avec, des outils qu'il a, bien qu'il voyage 3 ans dans les différents pays de l'Antiquité dont il parle, la Turquie, l'Iran, etc., dans les années 80. Mais il se sert de ces outils, mais il en tire une langue qui est comme celle,
la tradition orale.
Les traditions orales, voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est-à-dire on pourrait le raconter. Voilà, c'est beaucoup ça qui nous a plu dans ce livre-là.
C'est un livre d'histoire où il n'y a pas une seule date.
Voilà, il n'y a pas, ça passe, ça compte pas les dates. Voilà, c'est la fin de vos cauchemars scolaires. Vous ne devrez pas retenir le moment où le Léviathan, etc., etc. C'est de façon précise, c'est pas important ça.
Il a enseigné quoi, lui?
Eh ben, qu'est-ce qu'il a enseigné? Je crois pas du tout l'histoire, justement.
Non, pas l'histoire.
Il a été un peu touche à tout. Je me rappelle plus précisément géographie, sociologie. Bon, peut-être il a aussi enseigné l'histoire.
Il est arrivé déjà universitaire aux États-Unis.
Il a fait ses études directement aux États-Unis.
Ah, d'accord. Mmh. Il
a vécu aussi en Amérique du Sud.
Ouais, un petit peu. Il a fait une transition. Mais je crois que le début de ses études, c'est aux États-Unis. Enfin, je suis sûr.
D'accord. Alors, la première chose, comme je suis relativement habitué aux livres universitaires, qui m'a étonné, pas seulement qu'il n'y ait pas de notes en bas des pages, même pas la fin, comme on a l'habitude, il n'y a même pas la table de matière. Ouais, ça, c'est vraiment un livre, sa table de matière. je suis perdu, parce que je l'ai cherché partout. Naturellement,
je comprends.
Même pas de bibliographie. Encore moins la bibliographie, voilà.
Il n'y a pas d'autre père que 1, 2, 3, 4. C'est comme si c'était un livre de.
Non, mais ça, voilà. Ça veut dire. Mais tellement c'est... qu'on parle, ça veut dire des choses.
Ouais. On n'a pas de chapitre.
Il avait l'habitude.
Nous, on reprend ce texte, et c'est vrai qu'on se retrouve confronté à ces choses-là. On se dit, ah oui, on va en mettre une table des matières, et en fait, on se dit, ah oui, mais on va mettre 1 page, tac, et 2
après,
pages.
On ne peut pas mettre un titre. Seulement, il faudrait lire tous les numéros et dire, quel titre on pourrait. Alors là, ça serait.
Et oui, sauf que ce n'est pas tout à fait possible par rapport à cet ouvrage, en fait, parce que je pense que justement, ce ne serait pas lui rendre justice que d'essayer de.
Il
n'y
a pas de titre non plus dans Le Seigneur des Anneaux. Évidemment, c'est un récit fictif, Le Seigneur des Anneaux, et encore. Mais c'est une excellente métaphore de la résistance au pouvoir. Il n'a pas, il faut le considérer comme un récit de ce genre, à part que ce dont il parle a un fondement dans l'histoire.
Non, tu disais, c'est pas ça qui est important justement, les références, les bas de page, les chapitres. C'est moins important que quoi finalement le livre, si tu pouvais. Qu'est-ce qui pour l'auteur est tellement plus important que il justifie le fait de ne pas respecter un peu la tradition.
Je ne sais pas s'il le justifie ou il. Non, il ne joue pas. C'est son récit. C'est lui. Comment dire? Et je pense que c'est pour donner cette amplitude du temps et de l'envergure de la bête. Et c'est pour faire quelque chose d'un récit comme mythique, si on veut. Quelque chose qui est dont on ne va pas venir à bout comme ça. C'est ça l'enjeu de ce problème, ce livre. C'est alors, après, suivant comment on le lit, on peut en sortir plus ou moins pessimiste ou optimiste, mais c'est une ancienne histoire, et donc c'est ça qui veut donner comme, je pense, comme étoffe. c'est que c'est pas circonstanciel, c'est pas les 10 dernières années, c'est pas comme ça, c'est des siècles, c'est des générations d'hommes, c'est une ancienne histoire dont on porte la mémoire maintenant dans nos sociétés, et que pour comprendre, comment dire, la logique, plus la, comment on dirait, eh bien il faut...
Dynamique.
La dynamique de cette histoire, il faut seulement revenir à l'essentiel, c'est ce récit-là. Moi, je le vois comme ça.
Et c'est aussi, c'est ce qui est important aussi de noter, parce qu'on parle beaucoup du Léviathan, forcément, c'est la figure. C'est aussi, tout au long de cet ouvrage, le récit de toutes les résistances humaines face à la bête. Et c'est super important de le noter quand même. Qui vont se faire plus ou moins bouffer, qui vont plus ou moins réussir à accomplir quelque chose dans leur temps et tout ça. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, la mémoire, elle est des deux côtés. Et c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant et bien montré dans ce bouquin.
Ouais, moi, ce que je trouve essentiel dans cette, c'est le fait que les résistances, au moment où elles arrivent à leur but, c'est-à-dire de descendre, parce que c'est tu disais que c'était comme une bête, mais en fait, il le décrit bien comme une machine. Mm-hmm. C'est une machine, mais qui renaît. Une machine vivante, c'est-à-dire une machine qui est sans fin, c'est-à-dire mortel. Et au moment où la résistance arrive à prendre le dessus et croit avoir tué ce monstre, en fait elle-même dans la façon de se structurer, de s'organiser, elle a reproduit le modèle qui recrée le monstre. Donc c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Dans le livre, il y a cet exemple des centaines de fois, rien que dans ce livre. Et donc, c'est un érudit, il y a une connaissance historique, mais monstrueuse, quoi. C'est vraiment. Mais c'est ce mécanisme, c'est-à-dire que la résistance, au moment où on y arrive, on a lutté, on a eu plein de morts, on a eu plein. Au moment où on arrive à déboucher, etc., en fait, on s'est changé soi-même et on a reproduit un mécanisme qui est à la naissance d'un nouveau monstre qui reprend les caractères des monstres précédents. Donc c'est pour ça que pour moi, ce livre, il est essentiel, dans le sens qu'il nous avertit, il nous prévient des prochains enjeux de nous en tant que résistants, c'est-à-dire en même temps dans nos actions, dans notre organisation, il faut qu'on prévoie ce système qui s'est reproduit des centaines de fois dans l'histoire.
C'est vrai que j'aime bien parce qu'on a l'impression que c'est un conte, c'est vraiment de la tradition orale, ça part des trucs basiques, des structures basiques du pouvoir, la société hiérarchique, ça part de, je sais pas si c'était Henty qui disait, ou je sais pas, le serf, le dominant, le dominé, etc. Je sais qu'il y a cette même problématique chez les Sumériens, je sais que c'est une problématique aussi étudiée chez les Kurdes, un peu plus théoriquement, mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un truc des personnages au début, un ou deux personnages, après ça explique toute la complexité historique. On a toujours l'impression qu'au fond c'est justement des dialectiques de rôles très simples, d'une hiérarchie très simple, des constructions sociales et un système de pensée très simple qu'on a créé il y a X temps et qu'on continue de répéter, etc. Même quand nous-mêmes quand on s'organise, etc., quand on fait la révolution, puis c'est des mécanismes qu'on reproduit, parce qu'on a un schéma comme ça dans la tête, et justement ce qui est bien, c'est que il le montre très bien qu'il y a un schéma comme ça, il pousse à ce questionnement, on se dit, mais attends, on est con, on a un schéma comme ça dans la tête, on fonctionne vraiment comme ça, mais attends, il se passe quoi? Mais vraiment, ça te renvoie à toi, en fait c'est un truc très simple, c'est un truc très basique, puis je crois que c'est pour ça qu'il est resté simple, et qu'il est resté comme ça, très linéaire, puis qu'il est parti comme ça sans mettre des notes, etc. Mais vraiment, il te renvoie à toi-même pour que tu ne te poses pas la question. Après, bien sûr, après, il faut ramener des réponses. Hein.
Et puis, il y a une autre chose qui est montrée quand même, c'est la manière dont on en a peu parlé, on a vraiment parlé de la continuité, mais il y a quand même aussi tout un travail pour montrer la manière dont le Léviathan il va muter en fait au fur et à mesure des différentes sociétés et dont la manière dont il va se perfectionner, dont il va réussir à devenir de plus en plus total, de plus en plus, je sais pas comment dire,
organique.
Ouais. Faire en sorte de faire de plus en plus corps avec raffiné. Le corps des gens et faire en sorte que du coup la rébellion elle puisse même plus rêver en fait. Donc ça c'est aussi quelque chose important à noter et qui est du coup intéressant de voir comment historiquement par exemple, il y a un passage qui est vraiment très appréciable, c'est l'arrivée de la Renaissance en Europe où il montre que c'est genre la période où le Léviathan il a le plus progressé en 1500 ans, c'est l'arrivée de la Renaissance, ça marque vraiment une étape incroyable là-dedans, et du coup ça permet de... Du coup, la manière dont il montre ces choses, c'est une manière un peu différente de celle qu'on a l'habitude, je sais pas, avec l'arrivée du capitalisme et tout ça. Lui, il prend ça un peu avant, dans la structuration de la pensée, dans l'arrivée des artistes, qui sont aussi des scientifiques, Léonard de Vinci et tout ça. Donc je trouve très intéressant ces passages, où c'est des petits mécanismes, en même temps c'est très simple, et ça touche juste très très souvent, vraiment. C'est ça qui est très fort, je trouve.
Oui, à propos de Léonard de Vinci, il ne faut pas oublier qu'il avait été engagé par le duc de Milan pour la guerre. Pas pour les canons, les moulins à canons en Milan, les terres faits de vue hydraulique par Léonard de Vinci, en plein centre de Milan, pour produire des armes beaucoup plus performantes. Entre autres, à part les dessins dans lesquels on voit pas mal de machines de guerre. Parce que moi, je dis en tant qu'Italien, parce qu'en Italie, il parlait de Léonard de Vinci, à part qu'il était parti en France, ça, voilà. Mais c'est justement, c'est presque un sacrilège, mettre en évidence que lui était engagé pour la guerre. Pas parce qu'il était le grand artiste, parce qu'il était le scientifique. Donc c'est pas fait ce que vous dites. Hein. Mm-hmm. Ça tombe d'exemple, ouais. C'est pas fait.
On pourrait dire que le Léviathan profite des périodes un peu d'obscurantisme pour établir ses acquis, on va dire, pour se renforcer, et profite des périodes où théoriquement, je sais pas, les siècles des Lumières, ou les époques où on fait avancer plutôt l'art et puis l'intelligence, profite de ces époques pour plutôt se cacher et emmagasiner de la technologie, entre guillemets.
Même, en fait, c'est plus ce qui se développe, enfin, ce qui est un peu montré dans ce bouquin, c'est que c'est plus dans ces périodes-là de fourmillement intellectuel qu'il va réussir à prendre en force, plutôt que dans des périodes plus chaotiques. Il y a un long passage, si je ne me trompe pas, autour des Francs, par exemple, qui sont un très mauvais Léviathan. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas très bien. Là où l'église de Rome était très efficace auparavant et ensuite avec eux. Mais eux, ils prennent pas bien la forme parce qu'ils sont très brutaux, ils sont très violents, ils sont très guerriers. Mais pour autant, ils n'arrivent pas dans leur espèce de féodalité. Ça ne fonctionne pas tout à fait avec la structuration du Léviathan.
C'est pas ça, c'est par rapport aux Vikings, par exemple.
Aussi, ouais.
Les Vikings sont beaucoup plus... C'est un Léviathan de type comme les Grecs. C'est-à-dire, moitié commerce, moitié pirate. Donc c'est un système, un système de pieuvre, c'est un peu, c'est-à-dire au début des Léviathans, il y a le Léviathan de type empire, comme l'empire perse, etc., qui est qui décrit un peu comme un ver terrestre, et puis il y a la pieuvre qui est plutôt le Léviathan phénicien, puis après grec, qui est en fait une myriade, une flotte, quoi, qui avec des comptoirs, etc. Et c'est plus une pieuvre avec des bras comme ça. Et après, tu as une forme hybride quoi, de Léviathan qui est mi-ver, mi-pieuvre. Alors, je ne sais plus quelle époque, mais c'est justement la fin de l'Antiquité. Les Romains,
le Romain c'est encore le vert.
C'est encore un peu un vert comme ça, mais après.
Les Arabes ou.
Oui, peut-être
les Arabes. Ouais. Ou
peut-être il est né quand ? Il est né quand ?
Alors, ça, c'est les origines du début du livre, c'est ses origines sumériennes.
Je crois que plus ou moins tout est parti de l'histoire d'un mur, non ? Il me semble qu'une des origines, c'est la construction d'un mur, et du coup, c'est employé. énormément de gens à ce travail-là, et c'est le début d'un espèce de système de production.
Voilà. Moi, j'ai juste, enfin, moi, je l'ai pas lu en entier, j'ai pas réussi. Mais j'ai juste l'impression que Léviathan, il attend en fait que les gens ils exercent des pouvoirs les uns sur les autres. Et après, c'est parti. Quoi.
Mais il est dans la tête, hein.
Ouais.
C'est la manière de fonctionner.
Mais ça vient juste. Oui, mais c'était comme moi je l'ai vu, comme ça, quoi.
Bah, il n'a pas d'existence, enfin, c'est une créature un peu comme ça, je ne sais pas comment dire, magique, parce qu'elle n'a pas d'existence matérielle réelle, et en même temps, elle existe matériellement partout. Donc c'est
bien fort, et
cette espèce de dualité, quoi.
C'est une pensée humaine.
C'est un système,
je dirais. Enfin bon, j'en sais rien. Oui.
C'est les relations sociales, c'est les réunis, etc.
Lui, il a écrit 400 pages pour raconter son histoire, après il l'a définir en.
Ouais,
c'est pas comment dire. Il y a
une révolution, après les gens, ils essaient de façon de prendre le pouvoir et de toute façon, ça dérape à un moment donné, quoi.
Mais plus qu'un livre d'histoire, c'est presque un livre d'anthropologie. C'est-à-dire que.
Ouais, c'est
un peu ça.
C'est l'histoire de l'humanité, quelque part. En tout cas, moi, je sais que je l'ai lu et que, sur le moment, je ne savais pas quoi en penser. Mais depuis que ce livre me hante, parce qu'il a changé ma façon de voir le monde. Voilà. Rien de plus, rien de moins.
Et il a changé ta façon de voir de quelle manière?
Parce que, effectivement, le plus tôt de penser les choses en termes politiques, j'ai vu les choses en termes... sous forme plus comment dire symbolique quelque part ce qui est pas contradictoire, je sais pas comment dire. Tout à coup j'ai vu l'histoire de l'homme comme une lutte continuelle, pas seulement fait entre une lutte contre un système, contre quelque chose qui a pris le dessus de notre façon. Enfin, on va pas idéaliser la manière qu'avaient les hommes de vivre sous forme d'entraide, de chasseur-cueilleur, mais comment on est passé de cette vie de chasseur-cueilleur à une vie plus urbaine. Comment ça s'est passé par l'arrivée de pression qui économique, je sais pas comment dire.
Ouais.
Donc, c'est, du coup, je vois les choses d'une autre manière, je ne sais pas comment dire.
On n'a pas l'impression d'avoir évolué.
Ah ça, pas nécessairement dans le bon sens.
Si on n'a pas une pensée historique, si on n'a pas un recul historique, on voit effectivement que l'État, que s'il n'y avait pas l'État, ce serait la pagaille, le chaos, etc. Mais si on a justement ce recul historique... qui est bien rendu dans ce bouquin, on voit que l'État, c'est une structure de raquettes et de domination qui a été imposée avec une violence inouïe sur les communautés humaines et qui a été la destruction et la spoliation et l'extermination et l'expropriation des communautés humaines
de tout temps,
depuis les Sumériens. Et donc après la résistance s'organisant et il y a un peu une lutte, les Kurdes ont théorisé ça en parlant d'une modernité capitaliste actuellement, c'est-à-dire on pourrait dire l'état actuel du Léviathan. Et ils parlent d'une modernité démocratique qui serait l'état actuel de la résistance au Léviathan.
Si on définit le capitalisme, voilà, comme étant une crise de l'humanité, une crise de la civilisation, et non pas comme étant une civilisation. Le capitalisme est une crise de la civilisation, ce n'est pas une civilisation. Contrairement à tout le beau langage qu'ils nous font, le capitalisme est une crise de la civilisation.
Et t'entends quoi par crise ?
Des valeurs communautaires, des valeurs morales, éthiques, je veux dire, mais je parle des valeurs humaines, des valeurs d'échange, des valeurs de démocratie, des valeurs du rapport avec la nature, du rapport entre hommes, entre hommes et femmes. Mm-hmm. C'est vraiment la crise. Mm. Je veux dire, on sent même plus le vivant. Alors moi, je vais donner quand même quelques éclaircissements, parce que c'est vrai que j'ai dit qu'on considère le capitalisme comme une crise de la civilisation, mais je vais essayer de traiter le sujet par rapport à ça. Si vous prenez Marx, exemple, il a une logique de l'histoire comme quoi, bon, il y a une certaine continuité comme ça, il y a un développement, etc. Puis il a beaucoup contribué à dire que le capitalisme, c'était l'économie, etc., etc. C'est un système économique qui était inexorable, etc., et qui s'était obligé. On part du principe que pas du tout, que le système capitaliste, que l'État capitaliste n'a pas une obligation de l'histoire. Les mouvements les sociaux, l'histoire aurait pu se faire différemment, le capitalisme aurait très bien
ne jamais exister.
Il n'y a pas une obligation comme ça. Mais vous prenez les théories les plus révolutionnaires, les théories marxistes, il dit non, il y a une continuité. Alors à partir du moment où vous avez une logique comme ça, évidemment, quand vous allez faire l'histoire, ben vous allez dans le même sens. Vous répétez la même erreur parce que vous croyez être, à un moment donné de l'histoire, vous croyez être au centre de l'histoire. Faire l'histoire, que c'est vous êtes, c'est Allah, c'est le Seigneur qui vous a donné un rôle, etc. Et que vous allez accomplir ce devoir. Et effectivement, vous tombez dans le même piège, vous recréez un autre Léviathan, un autre ver. Voilà quoi.
Ben avec Nemo, par exemple, on s'est un peu interrogé sur cette façon de faire des histoires aussi longues de notre histoire. Et c'est vrai que, pour ma part, j'ai aussi une petite hypothèse sur le fait que les gens qui résident aux États-Unis, ils ont ce goût, parce que je pense qu'ils ont une très courte histoire sur ce continent. Je veux dire, à l'exclusion des peuples autochtones qui y vivaient. Mais tous ces Européens-là, ils ont une très très courte histoire. Et je pense qu'ils ont développé un goût particulier pour se plonger dans l'univers des racines de l'histoire, de très lointaines, comme ça, et la reconsidérer d'une certaine façon. Et je pense à un autre penseur que j'aime beaucoup, qui s'appelait Lewis Mumford, qui a écrit sur la cité à travers l'histoire, qui a écrit le mythe de la machine. Et par exemple, dans le mythe de la machine, c'est aussi une inversion complète des postulats marxistes. C'est au tout début du livre de dire peut-être que les hommes ont inventé le feu pour bavarder plus longtemps.
Bah oui, bah peut-être, c'est sûr. Peut-être.
Et donc, c'est peut-être juste que les évolutions technologiques viennent du désir et de la pensée et non l'inverse. Que les conditions matérielles de la vie conditionnent chaque fois la façon dont on pense. Et lui, donc, à partir de là, il reprend aussi cette histoire de la machine. Et son hypothèse chez Mumford, c'est que la machine, elle est d'abord une machine sociale pour s'exécuter technologiquement, donc. Et la structuration de, par exemple, bon, il parle des Égyptiens, mais admettons par exemple la structuration des monastères. La division du travail à l'intérieur des monastères permet d'imaginer des machines qui effectivement vont faire telle ou telle spécialisation de l'activité humaine. Donc ça, c'est une sorte d'inversion à travers l'histoire, mais c'est aussi une très longue histoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a même pas... Il y a un type qui s'est aussi penché sur comment il s'appelait, Bourstein. C'est pas forcément des anards, hein, mais c'est des gens qui ont cette espèce de goût pour l'envergure de la durée, la dimension du temps de l'histoire humaine. Et Bourstein, c'est pareil sur il a un livre qui s'appelle Les Découvreurs. Qui est plus sur les personnes ou les moments, les étapes dans l'histoire de l'humanité qui font que, à un moment donné, on ne connaît pas la Terre, l'espace. Il y a trois chapitres, l'espace, le temps, et en rembobinant l'histoire depuis, il nous fait comprendre que, en fait, il y a un moment donné, c'était autrement ce qu'on comprenait de la Terre, mais vraiment concrètement, c'est-à-dire physiquement, comme de nos corps. Jusqu'à ce qu'on s'introduise dans le corps, par exemple, la notion du corps était autre chose que ce qu'on vit maintenant, nous, de l'image que nous avons, que nous portons de nos corps, etc. Et bon, peut-être c'est faux, peut-être qu'il n'y a pas que les... Enfin, que les Américains... J'ai cherché à qui...
C'était quel auteur, là, tu parles de...
Burstein, Daniel Burstein, il s'appelle. On n'a pas tellement ces traditions-là. Les penseurs européens s'arrêtent volontiers aux limites de l'histoire européenne. Mais si on veut vraiment changer ce monde, c'est quand même l'envergure de ce qui nous attend, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est un gros monstre. Il est là depuis longtemps. Et en plus, on est aussi, nous, dans le ventre de la baleine. Enfin, non, dans le...
Et le voilà. Monstre est aussi dans nous.
Dans nos têtes. Voilà. Donc, si on veut, c'est très intéressant, cette envergure-là. Moi, j'aime bien. Moi, ça me rend optimiste. Parce que ça me donne du cœur à l'ouvrage. Ah, il est gros, bon, bah... C'est un gros boulot, quoi. Mais c'est pas dit que, pour autant... La tâche soit insurmontable. C'est bon. Après, voilà. Quand on a discuté avec celui qui faisait le dessin, là, ouais, il avait fait tout le monstre, et puis il a mis ce tout petit, là, être humain, là, au sommet de sa petite montagne, face à cet énorme monstre. Et puis voilà, c'était le signe qu'il y en avait un. Soit qu'il le regarde passer, soit qu'il attend pour le combattre, parce qu'à mon avis, il a une lance dans la main.
Un peu la même période où ce livre, il est arrivé, on l'a lu, on en a parlé, tout ça. Il y a deux autres bouquins qui étaient aussi présents, et je vais juste en parler vite fait, parce qu'ils sont différents de celui-là, et je trouve intéressant du coup de les replacer dans le contexte de, par exemple, ces ouvrages-là. Il y en a sans doute plein d'autres, mais moi, je vais juste parler de ceux-là. À savoir, un livre qui s'appelle « Caliban et la sorcière », qui est, je ne sais plus le nom de l'auteur, je vais noter quelque part, Sylvia... Ouais, j'ai écorché son nom. Une auteure qui est américaine, si je ne dis pas de bêtises.
Dans l'italienne. Italienne.
D'origine, mais pas américaine. Non,
non, non.
Sûr qu'elle est italienne.
Non, non.
Ok.
Italienne.
Très bien.
Certo.
Et du coup, qui traite la période, disons...
Federici.
Ouais, c'est Federici. Ça. C'est ça, Federici.
C'est italien, ça.
Qui traite de la période Moyen-Âge et Renaissance avec un tout autre postulat, parce que là, pour le coup, on est dans un essai universitaire très très bien foutu. Et elle va s'intéresser à la manière dont le système capitaliste naissant va exploiter le corps des femmes et des colonisées, et des femmes colonisées. Et aussi les mettre au banc, leur enlever la possibilité d'être présent au sein de la communauté pour s'accroître, pour se développer, et comment il a créé cette espèce de guerre de tout ce qu'on tous, on va dire, entre ces différentes parties, disons, hommes et femmes, et colonisés, colons, entre guillemets. Ce qui est intéressant du coup aussi, c'est que ça remet en question des choses qui, un peu comme elles sont traitées dans le Léviathan, on voit que la période qui est beaucoup décriée, qui a été beaucoup, disons, décriée pendant très longtemps par l'histoire occidentale, à savoir le Moyen-Âge, elle n'est pas forcément la période la plus oppressive, en fait, pour les femmes, par exemple. Et c'est très intéressant, comme elle le décrit, que dans les structures communautaires du Moyen-Âge, la femme a plus son mot à dire, elle a plus de pouvoir, et qu'avec l'arrivée de la modernité, elle va se faire exproprier de ce truc-là très très fort. Caliban et la sorcière de Federici, on a dit. Ouais. Et enfin, l'autre bouquin, qui est pour le coup un roman historique. C'est un collectif d'auteurs italiens qui s'appelait L'Auteur Blissette, qui l'avait écrit...
Qui
est devenu Wooming, voilà.
Qui a écrit L'œil de Carafa.
Voilà, L'œil de Carafa, Q ou L'œil de Carafa. Donc ça, c'est un roman historique qui suit en parallèle un espion du pape, de l'Église, qu'est-ce que c'est, à qui il rend ses ordres, et un homme qui est passé par l'université, qui a croisé Luther, et qui va être pris dans le tourbillon de la réforme et de tous les petits courants qui vont éclore à droite à gauche, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, mais qui vont avoir avec les millénaristes, etc.
Et la guerre des paysans et tout ça.
Voilà, exactement. Et lui, il va être ballotté à travers toute l'Europe et il va aller d'un endroit à l'autre. Bon, bien sûr, il n'y a pas de véracité historique à ce roman, c'est un prétexte, mais du coup, il y a tout ça qui est montré, tout ce fourmillement du XVIe siècle, quoi. Donc voilà, ça c'est plus de... On est plus sur du roman, quoi.
Par rapport à Caliban et la sorcière, en fait, elle, dans son projet, en fait, c'était de faire le chapitre manquant dans l'œuvre de Marx, c'est-à-dire que elle, justement, de placer au centre dans la naissance du capitalisme, c'est-à-dire ce regain du patriarcat et cette en fait, que dans la théorie capitaliste, il y a l'accumulation primitive du capital. Et en fait, écrire ce chapitre manquant qui dit qu'en fait, l'accumulation primitive du capital se fait en permanence sur la dépossession des communs et donc la dépossession des familles, des femmes... en l'occurrence des femmes et du pouvoir collectif des femmes pour gérer les communautés humaines. Et donc c'est vraiment pour expliquer l'importance, la liaison entre le patriarcat, l'État et le capitalisme, cette origine commune et le colonialisme aussi, puisque c'est donc le XVIe siècle, c'est où justement il y a la découverte de l'Amérique, il y a la colonisation et il y a cette expropriation des communs avec les enclosures en Angleterre, il y a la déstructuration, donc la dépossession des communaux partout en Europe parce qu'il y a, par exemple, les nobles anglais veulent mettre du mouton à la place des paysans qui ne leur servent plus à rien. C'est-à-dire qu'avant, c'était une clique c'était des guerriers traditionnellement qui étaient là en cas de pépin pour protéger les communautés. Et en fait, arrivé à un certain pouvoir, ils commencent à spéculer sur la laine, c'est-à-dire parce qu'il y a des filatures en Hollande. Et donc ils exportent de la laine, ils se font du pognon. Avec le pognon, ils ont un pouvoir propre avec l'argent. Et ils se disent, les villageois, on n'en a plus besoin, ils nous emmerdent, on va mettre des moutons à la place. Et donc on exproprie naissance du prolétariat, enfin tout un système comme ça. Et c'est donc la naissance... du capitalisme, et il se passe en permanence sur la planète depuis cette époque, en permanence, il y a ce système d'accumulation primitive du capital, qui n'est pas primitive parce qu'elle est au début du capitalisme, mais qui est en permanence une condition nécessaire au système capitaliste, c'est-à-dire que en permanence actuellement, ça peut être dans des zones minières comme au Congo ou en Syrie, en permanence partout dans le monde, il y a des zones qui sont où l'appropriation primitive du capital se passe. C'est-à-dire c'est des zones de chaos qu'entretient le système pour pouvoir faire du profit, pour pouvoir exproprier, pour pouvoir avoir des conditions pour ne pas payer d'impôts, etc. Donc je trouve vraiment, ces deux livres qui sont très peu connus, mais pour moi, c'est les deux grands livres du XXe siècle, puisqu'on peut... à mon avis, c'est les deux grands livres théoriques qui permettent de se faire de découvrir, en fait, une réalité. Peut-être on peut rajouter Varoufakis, le ministre grec...
L'ancien ministre.
Et qui explique, le XXe siècle, l'économie au XXe siècle et tous les mécanismes de pouvoir liés à l'économie. Et il donne aussi des armes pour comprendre un peu le système dans lequel on est. Je pense que si on articule tout ça, on peut avoir déjà partir sur de bonnes bases.
Encore une question. Moi, j'ai sauté un peu comme ça. Il me semble qu'il y a une espèce de fil rouge à certains moments. Trois religions du livre. Il y a une forte présence, plusieurs exemples.
Ouais, c'est possible, mais...
Parce qu'il passe de Moïse, après il parle de Mahomet, après il revient à l'époque de la réforme, de la contre-réforme, justement à la casse. Et donc, il y a... C'est pas... quand j'ai fait comme ça, peut-être, c'est pas correct de dire qu'il y a ce fil rouge.
Si, si, c'est important, parce que je pense que ça a à voir aussi avec la structure un peu mythologique qu'il veut donner à son récit. Du coup, la construction des religions, elle a complètement à voir avec ces choses-là, dans la construction des différentes civilisations.
Où est-ce qu'on peut trouver ce livre-là? Parce que vous faites ce travail énorme d'éditer des bouquins.
Ouais.
Le distributeur, c'est souvent un problème.
Donc on n'a pas de distributeur.
Alors comment est-ce que...
Parce que c'est un problème, souvent.
Messieurs,
c'est tout le temps un problème.
Donc c'est la seule occasion que vous avez de l'acheter, c'est maintenant.
Alors c'est maintenant ou jamais. Alors ici, il est déposé dans quelques endroits.
Donc il est à la librairie Fahrenheit. J'ai déposé quelques exemplaires à la librairie du boulevard. Il faut que je retourne voir s'ils en ont encore. Il y a à la librairie Basta, à Lausanne. Ouais.
Retrouve les enregistrements des causeries du Lycignol 8. Page dédiée sur www.libradio.org. Tu peux également proposer des thèmes, préparer collectivement un repas, venir picorer des mets et des idées. Bienvenue à toutes et à tous.
A toda madre. A un desmadre.